Radio Notre-Dame. Bonjour, bienvenue dans le bistrot de la vie. Il est gravé dans le marbre de la Constitution de notre République depuis 2005, au même titre que la Déclaration des droits et devoirs de l'homme et du citoyen. Je veux bien sûr parler du principe de précaution qui, au fur et à mesure que le nuage venu d'Islande semble se désépaissir, trouve des adorateurs et des détracteurs dans des proportions qui restent à définir. Les uns affirment que l'excès de responsabilité vaut mieux que le défaut de précaution. Pour d'autres, le précautionnisme fonctionne comme le populisme. Alors à un moment où les catastrophes se succèdent, dans l'actualité, on serait tenté de dire « se bouscule », pas facile de se construire calmement une doctrine. Mes invités ce matin, Bernard Gérard, directeur adjoint du Conservatoire du Littoral, bonjour.
Bonjour.
Michel Boyancé, vous êtes le directeur et le doyen de l'IPC, c'est l'Institut de Philosophie Comparée, bonjour.
Bonjour.
Et puis au téléphone, Xavier Guillou, bonjour monsieur. Vous êtes au sein d'un cabinet conseil, spécialiste de la prévention des risques auprès de diverses autorités. Nous allons venir vers vous dans un tout petit instant. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à notre émission en nous appelant au 08 92 68 80 30, 08 92 68 80 30. Ma première question, Michel Boyancé, sera pour le philosophe. À votre avis, est-ce que le pari de Pascal s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution ?
Ah, bonne question. Alors, le pari de Pascal, ça vise quand même Dieu, hein, donc ça va très très loin, on n'y est pas encore tout à fait. Mais d'une certaine manière, effectivement, le principe de précaution, ça implique, hein, on le sait bien, la prise de risque. Alors, pour ouvrir un peu la discussion, est-ce qu'on peut vraiment inscrire dans le marbre du droit et de la loi le fait qu'on ne peut plus prendre de risque ? Est-ce que la vie, ce n'est pas un pari, ce n'est pas un risque ? Autrement dit, il y a une question d'équilibre aussi, on sent bien, hein, c'est pas tout ou rien, c'est pas de précaution, trop de précaution. Mais il faut réinterroger cette question, effectivement, de la précaution, et notamment cette question de la précaution qui est inscrite dans le droit. Et à mon avis, c'est là peut-être où il peut y avoir des dérives, parce qu'en réalité, la précaution, c'est essentiellement la personne qui agit, qui doit prendre précaution de ce qu'elle fait, avancer avec précaution, sans pour autant que ça soit une espèce d'épée de Damoclès qui empêche toute prise de décision. À mon avis, l'enjeu est là.
À votre avis, dans quel ordre les choses se sont-elles passées ? C'est l'opinion publique qui avait besoin de se sentir rassurée et le politique a accompagné le mouvement, ou bien c'est le politique qui a ouvert un parapluie ? Autour de 2005, autour de cette réforme constitutionnelle.
Oui, alors, quand il y a une réforme de cette ampleur-là, ou de ces enjeux aussi importants, ce sont des lentes évolutions, c'est la conséquence d'une évolution. Moi, je pense qu'il faut interroger plusieurs aspects. C'est toujours des effets cumulatifs. Il y a, d'une part, effectivement, les mentalités modernes qui veulent se protéger de tout risque, ça, on pourra y revenir. C'est psycho-affectif, on va dire, on veut éloigner tout danger, tout risque, on surprotège les enfants.
C'est occidental ou bien vous pensez que c'est mondial ?
C'est occidental, bien sûr. Deuxième phénomène, en lien avec celui-ci, mais un peu indépendant, c'est le fait qu'on judiciarise beaucoup les relations sociales et politiques, c'est-à-dire que il faut qu'on fasse des procès, là ça vient plutôt des États-Unis, hein, c'est pas une tradition très française, c'est une tradition plutôt anglo-saxonne et américaine, et donc il y a un jeu permanent de pouvoir et d'argent autour des procès et des contentieux. Et puis il y a un troisième effet à mon avis, c'est que nous sommes dans une société aussi hyper médiatisée, donc hyper affective, hyper rapide. Ça veut dire que prendre un risque, c'est s'exposer à des conséquences. Eh bien, pour éviter les conséquences, on prend plus de risques. Et on dit, ben, c'est très bien comme ça, parce que, a posteriori, on dit, on a pris trop de risques, c'est trop dangereux, évitons d'en prendre. Donc, à ce moment-là, tout le monde se couvre, tout le monde se protège, et on cherche une espèce de tutelle, hein, de tutelle étatique, de tutelle administrative, qui va nous dédouaner, nous, individus, des risques que l'on prend.
Xavier Guillou, vous êtes un spécialiste de la prévention des risques. Ce principe de précaution, qu'est-ce que vous en pensez ? Cela vous inspire quoi ?
Je suis assez d'accord avec ce que mon prédécesseur vient de dire. Je pense que nous sommes dans une société qui a progressivement cultivé l'aversion au risque. Alors c'est lié à toute une évolution de fond, notamment en Occident, avec ce qu'on appelle la massification de et la complexification, je dirais, de nos modes de vie, hein, où les prises de risque sont tellement massives et conséquentes qu'aujourd'hui, plus personne ne se sent apte ou capable de les prendre en compte à titre individuel. Donc on a tendance à se défausser sur le collectif pour assumer le moindre dysfonctionnement de de la vie, et c'est devenu une fin en soi. Maintenant, c'est le moindre dysfonctionnement au quotidien. Alors avec en plus de ça cette hypermédiatisation et cette culture de l'instantané dans laquelle nous sommes progressivement enfermés, plus personne n'accepte la moindre défaillance, quoi. Je pense en plus de ça que l'hypermédiatisation dans laquelle nous sommes entrés, hein, et je ne parle pas uniquement que de la radio, de la télévision qui passe en boucle des messages angoissants, il y a le pouvoir de l'internet qui est énorme derrière pour pouvoir véhiculer des rumeurs sur l'ensemble de la planète, hein, provoquant des chocs systémiques à chaque fois qu'on a un coup du sort, que ce soit un désastre naturel ou un conflit ou des errements collectifs, eh bien, ça devient inacceptable et inadmissible pour les opinions, quoi, qui très rapidement se mettent en mode défiance ou en mode de rupture face aux experts ou face aux décideurs. Et c'est cette dynamique-là qui est très perverse que nous vivons de plus en plus aujourd'hui avec des situations, alors que certains qualifient de chaotiques, et qui sont plus pour moi de la désorganisation collective, et avec en plus de ça, au niveau des individus, des modes de fonctionnement qui sont dehors de la régression, hein, en termes comportementales. Hein. Alors je pense que notre ami philosophe l'expliquera mieux que moi, mais c'est ce que moi j'enregistre sur le terrain quand je suis sur des opérations de pilotage et d'assistance sur des grandes crises majeures. Je vois les populations se recroqueviller, et y avoir des comportements très très problématiques en termes de résilience, c'est-à-dire d'acceptation des choses de la vie et de la mort, hein. Et puis aussi des très gros problèmes au niveau de nos organisations qui ne sont plus capables ou aptes à avoir un peu de bon sens face à des événements qui sont malheureusement ordinaires et de l'ordre de la vie, quoi.
Xavier Guillou, je vous interromps une seconde. Bernard Gérard, vous êtes directeur adjoint du Conservatoire du Littoral. Le Conservatoire du Littoral est une institution déjà ancienne, antérieure au principe de précaution, en tout cas de son inscription. Donc la prudence, vous la pratiquez structurellement avant qu'on l'ait appelé ainsi d'une manière un petit peu en boucle. Je rappelle que le Conservatoire du Littoral est en charge d'étendre le domaine public, au fond, sur nos côtes, au fur et à mesure, pour diverses raisons d'ailleurs, principalement des raisons de sécurité. Au moment de la tempête qui a frappé la Vendée, les côtes de Vendée et de Charente-Maritime, quel a été votre sentiment? D'abord, vous avez des implantations évidemment dans ces deux départements, mais le lien entre l'attitude des pouvoirs publics, l'attitude des médias, la réaction de la population, comment vous avez vécu ces journées?
Pas très bien, évidemment. D'abord, vous l'avez dit, on est nous-mêmes directement concernés par un certain nombre de domaines du conservatoire qui ont été totalement sinistrés. La principale ferme qui a été sinistrée appartenait au conservatoire, appartient au conservatoire du Littoral. Donc une grande tristesse d'abord. Deuxièmement, le sentiment que l'ensemble de la population qui a envie d'habiter sur le littoral ne se rendait pas compte, peut-être qu'elle commence à s'en rendre compte qu'on est dans une zone de risque, que le bord de mer n'est pas une zone de sécurité, c'est pas simplement la zone qu'on voit l'été en se promenant et en se bronzant sur la mer. La mer, c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose qui peut totalement détruire des zones, et ça, probablement, dans les zones en question, de la Faute sur Mer ou l'Aiguillon, où énormément de résidences secondaires sont installées, on voyait bien, on savait, hein, il y a un certain nombre de rapports. L'un des vice-présidents du conseil scientifique du conservatoire, Fernand Verger, avait écrit 2 ans avant que le jour où il y aurait une surcote, ça serait une véritable catastrophe. Donc on n'a pas été trop surpris de ça, mais en même temps une grande tristesse, et puis la nécessité précisément de faire prendre conscience davantage aux gens que le risque, ça existe.
Voilà. Est-ce qu'on peut faire ce travail de pédagogie, faire prendre conscience à l'opinion publique qu'il y a des risques, sans pour autant être les tenants d'une politique de peur, je dirais? Où est la limite, et qui peut décider, au fond, de cette doctrine-là, en cherchant à en définir les contours?
Je crois que ce que vous dites est extrêmement important. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il faut qu'on fasse, sur RFI, on parle du français facile. Et je pense qu'il faut qu'on parle en français facile. Et qu'il faut pas qu'on fasse du catastrophisme quand on explique aux gens que le réchauffement climatique va, à l'échelle de la fin du siècle, faire monter la mer d'un mètre. Ça semble pas parler aux gens. Il faut qu'on parle à notre génération. Dire vos petits-enfants, ça veut pas dire grand-chose aux gens, on sait même pas s'ils existeront d'ailleurs, hein. Donc il faut qu'on... La pédagogie, elle passe par la faire prendre conscience à des gens de ce qui va les toucher. modifier demain matin ou dans leur vie propre à eux, pas simplement dans les siècles futurs ou dans les dizaines d'années futures. Il faut qu'on le fasse avec des exemples, avec de la simplicité et leur montrer que ça peut être aussi cette précaution qu'ils vont apprendre, cette conscience collective qu'on va avoir est peut-être aussi positive pour eux. Vous disiez tout à l'heure que notre mission à nous, conservatoire, était d'assurer une plus grande sécurité sur le littoral. C'est pas simplement ça, hein. C'est surtout d'ailleurs lutter contre l'urbanisation et surtout faire des zones de rêve. Hein, les propriétés du conservatoire, c'est des endroits où on se retrouve face à soi-même, c'est des endroits d'une pure merveille. Et finalement, protéger ces zones, c'est pas aller contre, c'est aller pour. C'est aller pour une meilleure vie, c'est pour permettre à des gens de découvrir des grands écosystèmes, des grands paysages, et que c'est pas forcément catastrophiste de dire il faut arrêter d'urbaniser partout sur le littoral. Ça peut être très positif. Donc il faut le faire en positivant et encore une fois en ayant des éléments constructifs du langage. Hein. C'est quelque chose qui me paraît important. Il faut pas parler pour le siècle qui fait futur. Il faut parler pour nous. Et c'est là où on peut faire de la pédagogie.
Mais vous croyez pas, pour rendre le langage positif, que d'utiliser les expressions telles que « zone noire » n'est pas une très bonne idée ?
Non, mais bien sûr. Mais moi, je défendrais un peu la position de l'État, si vous voulez, dans une situation où il y a quand même eu 59 morts, il y a des zones, 8 jours après, je citerai pas la commune, 8 jours avant cette catastrophe, moi j'étais dans une commune où on venait d'autoriser un lotissement de 47 maisons en zone inondable. Donc à un moment donné, il y a la nécessité de taper sur la table et de dire « attendez, stop ». Alors c'est probablement un peu rapide, les explications n'ont pas été suffisantes, le centralisme de ce point de vue-là est peut-être pas la meilleure des choses, mais il fallait à un moment donné avoir un discours clair en disant on peut pas continuer comme ça. Alors après, on peut effectivement dire que la pédagogie n'a pas été suffisante, que les mots utilisés sont assez catastrophistes, et je partage totalement votre point de vue.
Michel Beugnancet, là aussi les pouvoirs publics paraissent tenaillés entre plusieurs options. Bon, prenons l'exemple de la grippe A. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où est venu l'emballement ? Est-ce que c'est une responsabilité gouvernementale ? Est-ce qu'on a mal interprété des données scientifiques qui étaient diffusées à travers le monde entier sur la progression de l'épidémie ? Et pourquoi cette espèce ? Est-ce qu'il y a une espèce de sentiment franco-français spécifique de ne pas écouter ce qui est dit par la parole officielle ? Bref, on aboutit à quelque chose qui paraît être un désastre économique, avec beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur le caractère objectif des décisions qui avaient été prises, en lien avec les laboratoires pharmaceutiques, par exemple. Bref, sur la question de la grippe A, que diriez-vous ?
Bon, là aussi, il y a beaucoup d'événements qui se sont enchevêtrés, qui ont cumulé. Mon impression, modestement, de mon point de vue, c'est que d'abord, il y a eu un emballement médiatique, parce qu'une catastrophe, eh ben, ça fait parler. On a rappelé la grippe espagnole, on a rappelé des choses terribles. Le politique, je le comprends, je me mets à sa place en tant que responsable d'établissement, je comprends bien, à ma modeste place. Le politique, il va pas dire mais non, tout va bien quand on lui dit mais vous rendez compte, 30 millions de morts en 18, la grippe aviaire, la grippe porcine, la pandémie, bon. Donc il prend des précautions. Gérer les dans son travail, dans son métier. Hein. Il en prend trop. Sauf, il faut voir le harcèlement aussi, hein, médiatique, hein, et il faut prendre une décision tout de suite. Ça passe au journal de 20h, il faut que le lendemain, au journal de 20h suivant, il faut que les décisions aient été prises. Bon. Donc il y a un emballement médiatique qui fragilise la démocratie et la prise de décision. Et un deuxième facteur, à mon avis, aussi important, c'est ce qu'on disait au début, c'est que dans les pays occidentaux, dans les grandes démocraties, nous avons pris l'habitude qu'entre la nature et nous, il y ait la science et la technique. Et d'ailleurs, c'est très curieux, et c'est très paradoxal, et ça me semble très faux, on veut que la science donne des assurances. Or, la science, de par ses procédés même, ses procédures, ses protocoles expérimentaux, notamment dans les procédés de mesure, hein, on va pas développer trop technique, ne peut pas donner de certitude. Car elle ne peut dire que ce qui est mesurable. Or, on sait bien que tout n'est pas mesurable, et que le mesurable dépend d'instruments qui sont aussi limités dans leur capacité de mesure. Donc, on veut que la science tranche dans des domaines où elle ne peut pas trancher absolument.
Ou pas encore.
Et ainsi de suite. Mais, bon, la science, les grands scientifiques savent bien qu'on n'est pas dans des certitudes absolues, hein. Tout le réel n'est pas observable ou mesurable. Et puis, on a pris cette habitude de la toute-puissance de la technique, hein, c'est ce qu'on disait. On vit dans un cocon technique, une infantilisation, et c'est vrai, une sorte d'infantilisation, une espèce de grand saint maternel protecteur de la technique, qui nous protège de tout. Or, la nature est plus forte que la technique. Et à un moment donné, on a peur. Et la peur est mauvaise conseillère. Et la peur ne peut pas engendrer de bonnes décisions.
Xavier Guillot, je voudrais me tourner vers vous. Est-ce que vous pensez, parce que vous avez souvent avec votre cabinet de conseil sur la prévention des risques, le contact avec des institutions, qu'elles soient dans le domaine économique ou administratif, est-ce que vous pensez que ces institutions, ces structures, correspondent à l'époque où nous sommes? Autrement dit, que les processus sont-ils dépassés quelque part?
Oui, on n'a pas les grammaires. Ça, c'est clair que aujourd'hui, la plupart des grandes organisations qui sont en charge, je dirais, de nos défis collectifs, sont sur des modes opératoires qui sont liés aux crises qu'on avait dans les années 50-60. Alors certaines ont pris conscience qu'aujourd'hui nous avions des franchissements de seuil, notamment avec ces fameuses crises systémiques. On l'a vu avec la crise financière, mais bien avant, hein. Rappelez-vous du passage de l'an 2000, hein, qui a fait frémir tout le monde, hein, et qui a coûté quand même presque à l'époque 30 milliards d'euros. Hein.
La grande panne des ordinateurs.
Oui, qui était quand même sur le fond, il y avait un risque, il y avait une occurrence de risque qui était très forte. Et bon, tout le monde a eu tellement peur qu'on a commencé déjà presque à surréagir. Mais
et à un moment où Internet c'était il y a 10 ans, n'avait pas du tout le poids aujourd'hui de diffusion des rumeurs.
Oui, sauf que aujourd'hui on peut très bien avoir la même, tout le monde a des réflexions sur une grande panne de l'Internet qui serait autre chose, je peux vous dire, que le nuage de cendres du volcan islandais. Bon, mais donc grosso modo, aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'organisations qui ont pris conscience de ça. Je pense notamment aux grandes infrastructures critiques, aux grands réseaux vitaux, notamment dans l'énergie, et sont en train de s'équiper, de s'entraîner, de réfléchir, je dirais, à d'autres modes d'organisation et à d'autres modes opératoires. Moi, ce qui me frappe dans ce qui vient d'être dit précédemment, à propos de l'emballement médiatique. On vit dans une société qui est hyper médiatisée. Donc on peut condamner les médias, on peut condamner la technologie de l'information, etc., comme étant l'effet pervers, je dirais, des crises que l'on vit, mais c'est pas suffisant. On vit avec et il faut faire avec. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. On n'a jamais eu autant d'observatoires, de systèmes de veille, etc., au niveau mondial. Regardez l'OMS, finalement, ça a pas mal marché. Enfin, je dirais, le système de détection et d'alerte n'a pas trop mal marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En aval, c'est tout le système d'évaluation et de qualification. Moi, à chaque fois, je suis assez stupéfait de voir autant de gens, si vous voulez, diplômés, formés, préparés, maniant la prédictabilité, etc., et se planter de façon aussi évidente à chaque fois qu'on a une grande catastrophe. Et la plupart des équipes que je côtoie et qui sont mis en mode échec rapidement, parce qu'ils sont une incapacité à réécrire le script. Ils sont enfermés, bunkerisés dans des logiques de plan, dans des doctrines. Alors entre des doctrines très très absolues comme le principe de précaution, hein, tant que on ne peut pas avoir la certitude que le nuage est dissipé, on fait voler aucun avion, donc on va attendre 5 jours, 6 jours, 7 jours avant d'avoir la certitude que on puisse faire décoller les avions. Et ils sont incapables de faire ce que j'appelle moi de l'Apollo 13. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui est arrivé à
la navette. Cette mission qui a failli être
à l'époque, pas la navette, au vol spatial à l'époque, ils sont incapables de se remettre devant une feuille blanche et de repenser complètement le mode opératoire en quelques heures. Et il faut attendre 5-6 jours et une grande catastrophe, 7 millions de passagers bloqués dans le monde entier, 750 000 qui sont pas rapatriables, quasiment la plupart des compagnies aériennes mise en faillite, pour commencer à réagir. Et c'est ça qui m'interpelle le plus, hein, c'est-à-dire cette incapacité à reprofiler les modes d'action et les logiques de décision. Ouais. Avec de plus, je dirais, une mise en échec du couple expert-décideur qui fait que vous perdez la confiance de l'opinion tout de suite, instantanément.
Xavier Guillot, si vous étiez dans notre studio avec nous, vous êtes au téléphone, vous verriez Bernard Gérard, le directeur adjoint du Conservatoire du Littoral, faire de très nombreuses mimiques en vous écoutant avec une très grande attention. Alors je vais lui demander pourquoi tous ces gestes très expressifs certes, mais qui inspirent plus la défiance que l'attention confiante.
Oui, je suis pas complètement d'accord. Je suis assez d'accord sur effectivement ce qui vient de se passer sur le nuage. Je suis pas complètement d'accord sur ce qui s'est passé avec Cynthia et le risque de submersion marine. Je trouve très intéressant d'écouter le préfet de Vendée. Et ça faisait 10 jours qu'il était là. Hein. Jean-Pierre Brault était en Vendée depuis 10 jours. Et il était préfet de la Guadeloupe, il était préfet de Mayotte. Le samedi, il a lancé des appels à la population, aux maires, etc. Personne n'y a cru. Et pourtant, on a informé les gens. Et il a été saisi quand il y avait un cyclone qui arrivait sur Madagascar, sur La Réunion, etc., la prise de conscience de la population était réelle, qu'on prenait des mesures et qu'on était capable de les prévoir et de faire une série de choses. En France, en métropole, on ne croit pas du tout à la catastrophe pour le moment. Et je pense que l'administration, un certain nombre de gens, ont effectivement informé des risques sur le littoral. Mais il y a un problème général à l'heure actuelle sur le littoral, dont on n'a pas envie de prendre la mesure. C'est que vous, moi, etc., on a tous envie d'avoir une maison au bord de mer. Moi, j'ai une maison au bord de mer. Je vois la mer tous les matins. C'est une chance extraordinaire. Mais quand vous construisez une maison à l'intérieur de la France, vous en construisez 5 sur le littoral. Tout le monde veut habiter sur le littoral. Et avant d'arriver à expliquer aux gens qu'il faut plus qu'ils habitent sur le littoral, on aura quelques générations devant nous et quelques catastrophes à attendre. Puis la deuxième chose que je voulais réagir de façon tout à fait intéressante, enfin, sur ce qu'a été dit tout à l'heure sur la science et sur la prévision, la volonté qu'on a de dire la science va répondre de façon rationnelle ou automatique. Et je trouve ça extrêmement intéressant, là encore par rapport à Cynthia, sur la double réaction. Dans les jours qu'on suivit de Cynthia, toute la population, le maire et tout ça, tous les gens concernés par tout ça disaient il faut démolir, il faut arrêter de construire, etc. Dès lors que les zones sont sorties, plus personne n'est d'accord sur les données scientifiques, entre guillemets, c'est-à-dire on n'a pas une connaissance définitive de ce qui va se passer sur une nouvelle catastrophe, etc. Ça n'empêche qu'on fait des suppositions. On a dit si on reprend Cynthia, si on prend la tempête de 1940, si on prend tel élément, etc., voilà ce que ça voudra donner. Et l'État a décidé, là, en ce moment, de faire cet inventaire sur l'ensemble du littoral français. C'est-à-dire, il anticipe sur l'ensemble du littoral. Il faut voir les réactions qu'il y a au niveau local. Personne ne l'accepte. Et là, l'État est en train de faire son boulot, de dire, attention, on va vers quelque chose, mais les enjeux financiers, les enjeux sociaux, nous avons tous envie, la population mondiale migre sur le littoral. Or, nous savons que la remontée du niveau marin va mettre en péril des centaines de millions d'individus. Hein. Et personne, on attend la catastrophe, de toute façon, on n'y croit pas, même quand la science, par anticipation, y pense. C'est pour ça que je reviens à mon idée, si on n'a pas de la pédagogie concrète, des choses que les gens peuvent vivre dans l'instantané et pour leur génération, pas pour les générations futures, on n'y arrivera pas. Parce que les enjeux sont tellement énormes qu'on préfère prendre le risque. À l'heure actuelle, les gens qui ont été inondés, vous en avez au moins la moitié, qui sont prêts à reconstruire sur place. Et la maison est à côté, il y avait eu des morts. Il y a eu des morts il y a 15 jours. Ils sont prêts. La puissance aussi de la faculté humaine à oublier la catastrophe, à vouloir l'effacer, est extraordinaire. Moi, j'étais sur le terrain hier, au sud de Charente, dans des endroits qui ont été complètement inondés, complètement ravagés. Les gens ont reconstruit, se sont réinstallés. À Vaison-la-Romaine, dans les 15 jours qu'ont suivi la catastrophe d'il y a 8 ans, on reconstruisait sur place, dans des zones inondables. La volonté qu'on a d'oublier aussi la catastrophe est considérable.
C'est une volonté ou c'est une réaction humaine presque naturelle?
Mais volonté à travers la réaction humaine naturelle, c'est-à-dire qu'on veut effacer la catastrophe et on veut se réinstaller. Alors pour des raisons à la fois parce que c'est bien, parce que la famille était toujours là, mais on veut effacer. On reconstruit en Thaïlande dans les zones qui ont été complètement sinistrées et ça reviendra. Alors comment faire à un moment donné pour qu'on ait cette distance par rapport à la vie, hein? On a envie effectivement, pour des bonnes raisons d'ailleurs, je pense que c'est extraordinaire ce que moi je vois sur le littoral, dans des endroits qui ont été sinistrés, la volonté des gens de se réinstaller pour revivre de façon positive, pour reconstruire une vie, pour reconstruire une économie, en disant oh, pff, après tout ça reviendra peut-être
mais
pas.
Mais quelque part c'est la démographie qui commande, ce qui était possible
quand
il y avait un milliard et demi de personnes sur cette planète ne le sera plus quand il y en aura 9 milliards.
On est d'accord.
Et c'est vrai à l'échelle de la France et de notre population à nous.
Oui.
Le tourisme c'est bien, le tourisme de masse ça provoque des dégâts.
Ça provoque des dégâts. Et vous savez, nous on a fait un colloque sur public ennemi ou ennemi. Il est à la fois un ami et à la fois un ennemi. C'est-à-dire que la massification dont on parlait tout à l'heure, ça a un intérêt. Et puis, si vous voulez, c'est difficile aussi de dire aux gens, le littoral est tellement fragile qu'il faut pas y venir parce que vous êtes trop bêtes pour comprendre ce qui s'y passe. Nous ouvrons nos sites au public, on accueille le public pour leur montrer que c'est des zones de vie, que c'est des zones exceptionnelles. C'est difficile à la fois de dire il faut pas venir et venir.
Michel Bouillancé, avant de faire une courte pause, je voudrais vous demander si au fond, plutôt que de parler de principe de précaution, il aurait peut-être pas fallu, dans les démocraties en tout cas, commencer par parler de principe de transparence, si on veut qu'il y ait une efficacité pédagogique.
Oui, de toute façon, il me semble délicat, surtout en l'inscrivant dans la loi et la Constitution, d'avoir des principes. Des principes qui semblent des espèces de normes intangibles. Voilà. Alors, pour vous avez tout à fait raison, il faut la transparence, il faut la précaution, il faut la prévoyance, il faut de l'explication, il faut de la pédagogie.
Bon, principe, tout ça, c'est inclus dans le mot démocratie, pour voilà. Le sens large, c'est pas la peine de donner des précisions.
Voilà, le danger des démocraties modernes, hein, pour être clair, des démocraties post-modernes, c'est que c'est déjà inscrit dans Tocqueville, hein, en 1848. On veut se protéger de tout danger, et donc on érige tout en principe, au lieu de laisser et d'éduquer, c'est une question d'éducation et de formation, d'éduquer les décideurs à décider, quelquefois contre les experts ou en désaccord avec les experts, mais autre que l'expert, autre que les décideurs. Mais si le décideur n'est plus responsable des conséquences de sa décision, il décide plus. Et donc, personne ne veut décider parce que personne ne veut prendre de risques. Et à mon avis, derrière tous ces débats, une question d'une crise de la décision. Et deuxième remarque, le principe de précaution, c'est très bien, mais j'entendais pour le littoral, c'est un cas bien particulier, c'est le littoral. Les pandémies, c'est autre chose. Les avions, c'est autre chose aussi. Autrement dit, chaque réalité est différente et chaque réalité demande une expertise, une décision différente.
Donc le littoral, c'est notre littoral. Après tout, ce sont les pouvoirs publics français qui sont concernés, la population française, alors que le nuage, qu'il s'agisse de Tchernobyl, de ce qui vient de se passer avec ce nuage islandais, c'est international, c'est mondial, ça demande une gigantesque coordination.
Aussi, mais...
On peut imaginer que d'un point de vue de souveraineté, les États, d'ailleurs on a vu qu'il a été difficile de faire prendre un comportement un petit peu coordonné à l'ensemble des pays de l'Union européenne, il y en a 27. Mmh. Bon, tous n'ont pas été touchés par le nuage, mais avant de mettre tout le monde autour de la table, 48 heures se sont écoulées. Enfin, ce sont des sources françaises qui le disent.
Mais regardez pour
c'est
la
compliqué.
Le ministre de la Santé de Pologne, qui est une femme médecin, a fait un discours très intéressant. C'était, je crois, en octobre, par là, septembre. Elle a dit non, moi je ne vaccinerai pas les Polonais. Elle a eu raison. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des cultures aussi, hein. On a surprotégé en France, elle a pris un risque. Alors est-ce que c'est parce que c'est des anciens pays de l'Est ou des pays de l'Est, tel qu'on les appelait il y a 20 ans, qui n'ont pas la même culture que nous de la surprotection, sans doute. Mais en tant que médecin, ministre, elle a pris une décision et il savait qu'elle était bonne décision. Autrement dit, laissons les décideurs prendre des décisions. Et puis s'ils prennent des mauvaises décisions, il y a des sanctions, il y a des contentieux. Mais à mon avis, il ne faut pas mettre un principe universel qui cache des réalités extrêmement différentes. La mer, c'est pas encore une fois le volcan, c'est pas la pandémie, c'est pas l'hygiène dans les hôpitaux, c'est pas l'hygiène dans la rue.
Et demain peut-être la catastrophe internet qui
paralyse. Et sans doute ça viendra.
Sans doute un jour. On marque une courte pause.
Radio Notre-Dame.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis.
Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, les vêtements par vêtements, petit à petit, les vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, c'est pas nos petits cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?
Vous avez tous reconnu la voix de Benabar dans le Bistrot de la Vie ce matin sur la sellette de principes de précaution. J'ai mes invités, Michel Boyancé, qui dirige l'Institut de philosophie comparée, Bernard Gérard, le directeur adjoint du Conservatoire du Littoral, et au téléphone, monsieur Xavier Guillou, qui dirige un cabinet de conseil spécialiste de la prévention des risques. Monsieur Guillou, vous m'entendez toujours?
Très bien.
Alors, essayons d'être maintenant un petit peu positif dans les propositions. En termes de gouvernance, parce qu'on voit bien que c'est tout le système sous la pression de l'opinion publique, sous la pression des médias, qui est au fond dépassé. Je vous repose ma question de tout à l'heure, mais d'une manière un peu précise, je sais que vous y avez réfléchi. Et en termes de propositions, quelles sont vos urgences?
Alors d'abord, moi je ne fonctionne pas en logique d'urgence. Je pense que la culture de l'urgentiste est le principal piège de ce genre de situation. Il faut plutôt raisonner en priorité qu'en urgence. Et quand on raisonne de cette manière-là...
On fait n'importe quoi.
Oui, on s'aperçoit que non seulement on surfe sur la dernière rumeur ou la dernière pression médiatique de l'opinion ou des experts, et on n'est pas forcément dans la bonne prise de décision, la bonne posture. Alors, je voudrais revenir sur cette problématique du principe de précaution qui domine un petit peu la pensée actuelle au niveau de la gouvernance. Dans le principe de précaution, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important, c'est que si on prend des mesures provisoires pour éviter le pire, si on sent qu'on a une situation qui est très dommageable pour les populations, pour l'environnement, mais il y a quelque chose de, il y a un mot qui est extrêmement important dans ce principe, c'est la notion de proportionnalité. C'est-à-dire d'adapter, je dirais, la décision à la nature du dommage que l'on va avoir à gérer. Il n'a jamais été écrit qu'il fallait tout arrêter. Il n'a jamais été écrit nulle part, ni dans l'article 5 de la Constitution, il fallait tout bloquer et mettre l'ensemble des populations en mode de survivance immédiat. C'est cette notion de proportionnalité que l'on a du mal aujourd'hui à mettre en œuvre. J'ai assisté à toutes les affaires de pilotage de la grippe A depuis 18 mois, j'ai eu la crise des Antilles, j'ai fait le retour d'expérience et j'ai assisté toute la crise de Katrina en Louisiane, donc je peux vous en parler en long et en travers. Xantia à côté syrien, 4000 morts et les effets d'une arme de destruction massive sur une des plus grandes villes des États-Unis.
Et en principe dans un des pays les plus...
Oui. Et puis de ce côté-là, on a beaucoup critiqué les Américains sur leur capacité de réaction. Parce que soi-disant, ils n'étaient pas capables de pouvoir réagir en 48 heures. Quand je vois ce que nous avons fait pour le volcan islandais, je pense qu'on a besoin d'être un peu plus modeste.
C'est probablement culturel en Europe, vous croyez pas? C'est-à-dire que les États-Unis sont perçus comme très efficaces à travers les séries américaines et par conséquent, on s'attend à ce que tout soit réglé en quelques heures.
J'ai écouté beaucoup de grands dirigeants américains qui ont vécu Katrina et qui, avec beaucoup de modestie, nous ont expliqué ce qu'ils ont, pourquoi ils ont eu ce type de problème, et ça rejoint votre question. Tout simplement parce que dans la qualification de l'événement, l'évaluation de l'événement, ils se sont trompés. Ils ont cru, par exemple, pour Katrina, que c'était un cyclone normal. C'était pas un cyclone normal, un cyclone de niveau 5, c'est les effets d'une arme de destruction massive. Donc, je veux dire, quand vous vous trompez sur l'évaluation au départ, ben, vous perdez automatiquement 4-5 jours dans le traitement de la crise. Et donc, la crise s'installe et elle vous génère beaucoup plus de dommages que la casse initiale, quoi, parce que vous avez pris trop de temps pour bien qualifier les événements. Alors, il faut, pour pouvoir, je dirais, y remédier, il faut travailler sur l'aptitude des organisations à faire ce que j'appelle de l'Apollo 13. Alors, on a un certain nombre d'entreprises, notamment des grands réseaux vitaux qui ont pris conscience de ça, je reviens là-dessus, parce que on a des entreprises comme EDF ou d'autres qui ont bien pris conscience aujourd'hui de la nature des risques, et qui s'entraînent. Et quand je dis qu'ils s'entraînent, c'est elles font des exercices.
Des simulations en permanence.
Ah oui, mais elles font pas que des exercices de type intervention rapide. Elles font aussi des exercices de ce qu'on appelle de réflexion rapide. C'est-à-dire d'être très rapidement en mesure au niveau des états-majors et au niveau des opérationnels, de bien qualifier les choses et de dimensionner les réponses par rapport à ça. J'ai beaucoup écouté l'intervention du monsieur du conservatoire du littoral concernant Xantia. Je dirais que les gens de Charente-Maritime ont eu en effet beaucoup de chance d'avoir le préfet qu'ils ont eu, parce que c'était un préfet qui était éduqué, entraîné et qui a eu les bons réflexes. Et du reste, c'est grâce à lui que, je dirais, la première bataille, celle de ce que les Américains appellent le rescue, c'est-à-dire le sauvetage des populations, a été réussie. Mais après, les pouvoirs publics ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre avec des mots qui n'étaient pas adéquats. Je suis désolé, mais la notion de zone noire, enfin, franchement, il faut y penser quand même. Hein. Je ne sais pas quel technocrate au niveau...
C'est peut-être le même qui avait trouvé taxe carbone, vous ne croyez pas?
Mais si vous voulez avoir un décrochage de l'opinion avec un mot qui n'est pas ad hoc et qui va renvoyer, si vous voulez, des choses profondes sur le plan du psychisme, c'était le seul mot à trouver. Hein.
Monsieur Guillaume, je vous disais, la taxe carbone, c'est un petit peu la même chose. Je veux dire qu'à chaque fois, il semble qu'il y ait là une espèce de volcan sémantique qui crache de la fumée dans les couloirs du pouvoir, non, vous croyez pas?
Oui, moi je vais vous dire, aujourd'hui la crise s'est installée dans les étages technocratiques et bureaucratiques de nos administrations et de nos institutions. Il y a des étages que je connais bien, hein, et que les praticiens du pilotage des crises connaissent bien, qui sont en dessous des décideurs, avec des gens qui sont, je suis désolé de le dire, je suis assez dur dans mes propos, mais qui sont derrière des écrans plats, qui vivent sur des modélisations virtuelles et qui raconte n'importe quoi, mais bloque le processus de décision avec des approches qui sont très très loin du terrain, très très loin des réalités, très très loin des populations. Ce sont des gens plus ça qui n'ont aucune empathie vis-à-vis de des situations qu'on peut avoir à assumer sur le terrain. Quand vous êtes sur le terrain en contact des populations, vous vivez des catastrophes humaines, des problèmes de vie et de mort, des problèmes de... Je dirais, quand vous êtes à Haïti ou à Katrina ou à Xantia ou autre, enfin, il y a des choses qui sont très 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 lourdes pour les gens. Bon, eh bien, ces étages-là sont très éloignés, hein, de ces problématiques-là. Or, ce sont eux qui conseillent les décideurs et qui les freinent, je dirais, dans des prises de décision qui pourraient être beaucoup plus rapides, voire même qui les freinent sur leurs intuitions stratégiques ou leur bon sens, parce que parfois moi j'ai rencontré des décideurs qui avaient beaucoup de bon sens et qui sont partis sur des mauvaises décisions parce que les entourages les ont embarqués dans des modélisations ou dans cette espèce, vous savez, de mélange entre une recherche de perfection prométhéenne et en même temps cette espèce d'hubris, d'orgueil qui est celui de nos sociétés, qui veulent absolument tout maîtriser par la technique, la mathématique, etc. Alors que dans ces cas-là, il faut revenir à des choses de bon sens, il faut revenir à du pragmatisme, à de l'efficacité et surtout beaucoup d'empathie vis-à-vis des populations. Parce que ce sont quand même elles qui sont frappées les deux tiers du temps. La grippe A, la sécurité aérienne ou les inondations, l'impact, il est vivent sur les populations en premier, et c'est à elles qu'il faut d'abord s'intéresser. Donc je crois que, vous savez, on retrouve toujours les mêmes pathologies de fonctionnement, hein. On est constamment, si vous voulez, à côté du de ce qu'il faudrait faire. C'est parfois incompréhensible comment des gens, si vous voulez, qui sont aussi bien formés, entraînés, éduqués, diplômés, etc., en arrivent à se tromper de guerre. C'est ce qui m'a toujours interpellé dans la gestion des crises, c'est cette inaptitude à aller sur l'essentiel ou à aller sur l'évidence.
Michel Boyancé, des gens intelligents qui font des bêtises et qui ensuite se rattrapent aux branches parce qu'ils peuvent s'accrocher à la Constitution, justement.
Il me semble qu'il y a là une distinction qui est très ancienne, hein. Platon l'avait déjà perçu très bien, entre donc les experts et les décideurs. Et je reviens sur le mot qui a été employé tout de suite, hein, je suis tout à fait d'accord, c'est estimer des risques, mais estimer de manière proportionnée les risques. Or, l'estimation proportionnée, c'est une vieille tradition dans les fondamentaux d'éthique, hein, qui remonte aux Grecs, c'est la vertu de phronesis, de prudence. Et la précaution est un des aspects de la prudence. Il y a la prévoyance, la circonspection, et puis il y a des défauts de la prudence, la précipitation, etc. Donc, mais qui peut... Aristote a un mot très 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 fort sur ce sujet, et en même temps qui nous laisse notre fin. Il dit la mesure de la prudence, c'est l'homme prudent. Donc il faut restaurer la capacité des décideurs à décider, au plus près du terrain, au plus près, je suis tout à fait d'accord, des gens, avec l'empathie des situations, l'empathie des gens, en laissant les experts là où ils sont, mais ils sont très nécessaires, hein, très utiles, très nécessaires, mais à un moment donné, en prenant des décisions, en conscience et en prudence. Ça, c'est...
Justement, conscience et prudence, quand on va s'installer un peu partout des logiciels d'aide à la décision, où au fond, on humanise, où on donne la voix humaine à une décision prise quelque part par un ordinateur et avec des modèles qui s'entrechoquent, est-ce qu'on n'est pas au cœur du problème, d'une certaine manière?
Oui, on pourrait prendre une comparaison, une analogie dans la manière d'engager des opérations militaires, entre la manière dont des Français, par exemple, et celle des Américains. Les Français sont des gens qui sont encore très près du terrain, très près des populations et très près des situations. Les Américains procèdent beaucoup par modélisation, par visualisation à travers des outils numériques, ce qui fait qu'ils ont une guerre quasiment électronique, là où le terrain est nécessaire pour connaître des populations, prendre des mesures et des risques, et éviter aussi de tuer des gens inutilement. Et notamment d'avoir, comme on dit, des dégâts collatéraux. Les militaires ont une expérience intéressante, hein, à garder précieusement dans leur domaine, et, bien sûr, mais intéressant sur cette question de décision au plus près du terrain. Mais parce qu'on est dans la prévention des risques, dans des opérations de type militaire, hein, quand on met en place de la sécurité civile ou les pompiers ou autres, on est quasiment dans des opérations aussi lourdes. Et ma deuxième remarque, c'est ce qui a été dit aussi, c'est peut-être faut-il mettre tout en place au plan technique pour très vite réagir face à une catastrophe et réparer les dégâts, plutôt que d'empêcher, par un principe de précaution disproportionné, exagéré, hypertrophié, plutôt que d'empêcher toute décision et de rendre toute décision irresponsable puisqu'on la rejette sur l'autre pour éviter de la prendre. Donc il y a là, à mon avis, quelque chose à travailler dans la formation des élites, dans la formation des décideurs politiques ou autres, pour ne pas laisser la bureaucratie prendre la place, hein, c'est ce que disait mon interlocuteur précédent, et restaurer cette capacité humaine de la personne dans son individualité la plus singulière, si je puis dire, pour en rajouter, à prendre des décisions, donc à prendre des risques, mesurer, calculer, mais à prendre des risques quand même.
Bernard Gérard, actuellement, si on parle des risques liquides, si je puis dire, qu'il s'agisse des côtes ou des zones inondables par les fleuves, il semble qu'entre 5 et 6 millions de nos compatriotes français, actuellement, soient exposés à des degrés divers à ces risques. Alors, est-ce que ce chiffre vous parle? Est-ce que vous le connaissez? Quand on regarde bon, c'est une carte parmi d'autres, j'imagine qu'il existe plusieurs évaluations, mais vous le disiez tout à l'heure, expliquer aux gens qu'une maison à laquelle il n'est rien arrivé pendant 300 ans, eh ben son tour va venir tout de même, et qu'on ne peut pas s'accrocher à une tradition sous prétexte qu'il ne s'est jamais rien passé. C'est vrai aussi du risque sismique en France, d'une certaine manière, ça peut également arriver, même si la probabilité n'est pas très forte. Alors, cette pédagogie, je reviens là-dessus, et est-ce qu'une institution comme la vôtre, quelque part, dispose, je dirais, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, d'assez d'autonomie? On parlait tout à l'heure des États-Unis dans un autre contexte, il y a de grandes agences indépendantes. Est-ce que cette indépendance peut déboucher sur une transparence et sur une pédagogie tournée vers l'opinion et pas seulement vers les décideurs politiques?
Deux choses, je reviens simplement sur le chiffre, je ne le connais pas pour l'ensemble du territoire national, je le connais sur le littoral. Hein. Les assurances ont fait le travail, c'est-à-dire ce qu'on appelle une cote NGF, c'est-à-dire de 5 mètres de hauteur, ce qui ne veut pas dire la mer plus 5 mètres. Hein. Les digues sont calculées à peu près à 4 mètres 30 à l'heure actuelle hein, sur le littoral. Si on monte à 5 mètres de hauteur, c'est 770 000 maisons qui sont concernées en France. Hein. Et si on est à 2 mètres, ce qui est absolument dérisoire, hein, on est à 220 000 maisons qui sont susceptibles d'être inondées demain matin. Alors, ensuite, l'autonomie, il ne faut pas se méprendre. Moi, je suis ravi que vous nous posiez la question au Conservatoire du Littoral, mais le Conservatoire du Littoral est une mission extrêmement limitée. C'est-à-dire, il n'a pas la mission que vous vouliez bien lui donner, d'être un anticipateur global, de dire que ce que doit être le littoral demain matin. On peut peut-être le regretter, mais la mission du Conservatoire, c'est d'acheter des espaces naturels pour les protéger définitivement et les transmettre aux générations futures, mais même à notre propre génération, bien évidemment. Par contre, on est effectivement dans ces instances de décision où on peut participer. On a une réelle indépendance. On a une chance extraordinaire. On est ce qu'on appelle un établissement public autonome et personne ne nous demande, nous impose un point de vue, etc. Mais de façon tout à fait pragmatique et peut-être dérisoire, mais le Conservatoire du Littoral, pour toute la France, Outre-mer compris, c'est 117 personnes. Hein. Il y a 1500 communes, les littorales, rien que sur la métropole, hein, sans parler de l'Outre-mer. On est bien dans l'incapacité technique totale de donner un avis sur l'ensemble du littoral, même si on le donne. Donc on a une réelle indépendance, on n'est pas susceptible de répondre à toute la question. Mais je voudrais reprendre quand même ce que vous avez dit sur les prévisions, etc. Moi, je pense que y a un outil démocratique qui existe et que l'État, depuis plusieurs années, tente de mettre en place. Et là, la responsabilité collective des gens est en cause, y compris celle des élus. C'est les plans de prévention au risque d'inondation, qui sont des plans qui sont soumis à enquête publique. Et moi, je crois encore à la démocratie de ce point de vue-là. C'est il appartient à l'administration de dire ce qu'elle pense d'un sujet, et de le mettre sur la place publique, et que chacun en décide. Et c'est là où la responsabilité, si des gens se permettent après d'attaquer cette décision, quand vous voyez que sur l'île Dorée, qui a été inondée, vous avez des gens qui aujourd'hui demandent la remontée des digues, qui sont les mêmes, qui à 3 ans ont attaqué le Conseil Général de Charente-Maritime parce qu'ils voulaient remonter les digues et qu'ils ne voyaient plus sur la mer. Et ils ont gagné au tribunal. Hein. Et leur maison a été inondée, il n'y a pas eu de mort, par chance. Et maintenant, ils demandent à remonter les digues. Et là, franchement, il y a un moment donné, on a envie de dire qu'il y a un vrai problème individuel là-dedans. Mais je pense qu'effectivement, la responsabilité peut passer par la démocratie à un certain moment donné, par les enquêtes publiques et par l'expression démocratique. Moi, à mon avis, il appartient à l'État de dire ce qu'il sait, avec des outils transparents. On a parlé de transparence. Il faut que pour Cynthia, quand on définit les zones noires, atroces comme mot, tous d'accord là-dessus, une erreur pédagogique. Mais l'erreur aussi, ça n'était pas de dire comment on les a calculés, et avec des simulations qu'on puisse accéder chacun d'entre nous, y compris avec Internet, de voir comment la simulation technique a été faite, parce qu'il y a une simulation technique qui a été faite. Il faut la mettre à disposition de tout le monde, et puis qu'elle puisse être critiquée par n'importe qui, et qu'on la mette à enquête publique et que les gens s'expriment là-dessus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut espérer, peut-être pas être sûr, mais espérer au moins d'avoir une conscience collective du risque qu'on va prendre, et chacun s'exprimant, y compris les élus et le responsable politique à la fin, disant voilà ce que moi je considère comme étant la zone de risque.
Mais vous avez remarqué que bien souvent les porte-parole de l'expression politique se sont contredits quasiment de jour en jour et même de demi-journée en demi-journée avant qu'on trouve une sorte d'unité de langage permettant de comprendre quelque chose.
Non, mais vous avez complètement raison, mais y compris pour ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la pression des médias, la pression de l'instantané de l'information, on est tous d'accord là-dessus, fait que le politique, il a évolué effectivement du matin au soir en fonction de ce qu'il entendait autour de lui. Et après des positions un peu fermes, il est revenu en arrière en utilisant des mots impropres, etc. Puis simplement pour revenir aussi sur les décisions, mais je voudrais pas avoir l'air en tant que moi-même technocrate donner des leçons à d'autres technocrates. Moi, je considère que le technocrate c'est jamais qu'un technicien ou.
Mais vous êtes un technocrate qui vit au grand air.
Alors, et
à l'air marin.
Et sur le terrain. Non, mais c'est ce que je voulais dire. L'un des problèmes qu'il peut y avoir aussi dans les administrations centrales, c'est combien les gens hyper formés n'ont jamais été sur le terrain. C'est-à-dire, il faudrait imposer que ça soit la fin de carrière qui soit au niveau central après avoir passé 30 ans sur le terrain. Moi, j'ai passé 35 ans sur le terrain. J'ai pas la prétention d'en savoir plus que les gens qui sont à Paris, mais quand je vais en réunion, y compris sur le cimetière à Paris, je m'aperçois que j'ai pas le même discours.
Oui.
Xavier Guillou, un mot de conclusion ?
Oui, je suis complètement d'accord. Je pense que là, on est sur une des clés, je dirais, de résolution de ce type de problématique. Si on avait écouté les médecins généralistes, on n'en serait pas là au niveau de l'affaire de la pandémie du H1N1. Enfin, je veux dire, on n'était pas du tout sur la grippe espagnole 1918-1920 qui a fait 50 millions. bord. Si on avait écouté un peu plus les pilotes de ligne, là, par exemple, on aurait peut-être pas confondu, je dirais, entre amplitude du phénomène et gravité du phénomène, hein, parce qu'on met tout au même niveau, hein, donc on n'est pas dans cette approche de priorisation, je dirais, des situations. Et moi, je reviens toujours sur la même chose. Non seulement il faut remettre un peu des gens de terrain autour de la table, il faut les écouter. Deuxièmement, je pense qu'il faut absolument former, entraîner les équipes à faire de l'Apollo 13, hein, et doter nos grandes structures de ce que les militaires savent très bien faire, hein, de cellules d'anticipation. Hein. Regardez ce que Gordon Brown a fait là. Hein. Il vient de rejouer un coup absolument fantastique en termes d'initiative audacieuse, exactement comme pour la crise financière après Lehman Brothers, lorsqu'il a envoyé ses bateaux pour aller rechercher ses 150 000 Britanniques avec, je dirais, en montant un hub en Espagne.
Bon, je suis obligé de vous couper car nous arrivons tout à fait au terme de notre émission. Merci beaucoup de votre participation. Merci Bernard Gérard. Merci Michel Boyancé.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Pour mieux comprendre la famille et faire face à ses défis actuels, pour savoir comment répondre aux demandes des enfants, pour préserver son couple, retrouvez Esprit de famille, animé par Delphine Errant, avec la participation du cabinet Mots-Croisés. Esprit de famille, chaque samedi à 10h.
Bonjour. Je vous parle en direct de mon fauteuil de relaxation Variation. Grâce à sa télécommande intégrée et sa motorisation ultra silencieuse, je choisis ma position au millimètre près. Il s'adapte parfaitement à ma morphologie. Grâce à lui, je me relaxe totalement. Oubliez mon mal de dos.
Vous aussi, découvrez le confort Variation. 11 avenue du docteur Arnold Netter, Paris 12e, ou au 0800 800 807, appel gratuit.
Et en plus, ils sont fabriqués en France.
Or ou métaux précieux, vous possédez peut-être des bijoux, montres, diamants dont vous souhaitez vous séparer.
À Paris, dans le 6e arrondissement, Bourse